Viviane Thivant, dans une première partie, on a vu un peu les raisons, les circonstances qui vous ont amené à vous engager dans l'action politique, alors municipale puis communautaire pour l'écologie. Vous faites partie de EELV, Europe Écologie Les Verts. Hein.
Oui.
Vous êtes bien affilié à ce parti.
Oui, oui, je m'occupe même du groupe local de Narbonne maintenant.
Alors, bon, vous nous avez expliqué vos tentatives alors, de faire régner ou de faire triompher un certain nombre d'idées et les difficultés dans la vie, dans la vie municipale quotidienne d'y parvenir. Pendant ce temps-là, également, il y a eu une élection un an plus tard, c'est-à-dire il y a quelques mois, départementale et régionale. Mais on va se concentrer sur la départementale, peut-être aussi parce que vous l'avez probablement mieux réussi de ce point de vue-là. Vous avez fait une alliance tactique avec ce qu'on peut appeler la gauche audoise.
Oui, 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 c'est quelque chose qui a mis énormément de temps à se construire.
Qui a réussi au niveau départemental alors que ça avait échoué au niveau municipal.
Oui, et d'ailleurs, du coup, il y a eu un traumatisme, il y a eu quelque chose qu'il a fallu dépasser. Ça a pris énormément de temps. On a parlé pendant presque un an d'idées, de ce qu'on voulait, notre façon de fonctionner. C'est quelque chose qui a finalement pris, alors que je pense que de part et d'autre, on arrivait de façon très frileuse. Enfin, de façon très frileuse au départ. Et à force de discuter, d'essayer de mettre les choses sur la table et encore et encore et encore, eh ben, on a réussi à tomber sur d'accord au niveau programmatique, c'est-à-dire pour nous écologistes à faire passer des idées auxquelles on tenait et auxquelles on croit, en fait, au niveau du département. Et aussi mettre en place voilà, une organisation dans laquelle chacun pouvait se sentir respecté dans ce qu'il était et pouvait trouver des marques pour travailler ensemble.
Alors le département, on le sait, ou enfin, quand on ne le sait pas, il faut le rappeler, a pour compétence essentielle le social, donc pas l'écologie. Comment peut-on, quand on est conseiller départemental écologique, faire prévaloir un certain nombre d'idées dans une compétence qui noie l'écologie, enfin en tout cas qui ne la met pas en priorité?
Oui, il y a quand même... alors il y a les routes, je pense à ça en priorité. Oui, il y a beaucoup de choses en fait qui sont liées à l'éco-conditionnalité qu'on a pu mettre en place au niveau du département. Ça veut dire que tout ce qui va être au fur et à mesure subventionné, aidé... en fait, on va se poser à chaque fois la question de l'empreinte climatique de ces investissements, essayer de soutenir justement des projets qui nous semblent intéressants au niveau isolation aussi des bâtis. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont assez transversales. C'est vrai que souvent, on considère que l'écologie, ça peut être les espaces verts. On parle beaucoup, et d'ailleurs, c'est beaucoup les sujets qui sont abordés au niveau de la municipalité. Mais en fait, l'écologie, c'est quelque chose de beaucoup plus global, où on va parler aussi des mobilités, on va parler de comment finalement on gère la vieillesse, la mixité sociale, comment est-ce qu'on fait vivre les villes et les collectivités. Donc en fait, c'est beaucoup plus transversal que ce qu'on imagine.
Donc pour vous, il y a quand même vraiment de la place pour exister et démontrer qu'on apporte quelque chose.
Oui.
C'est votre ressenti ou le ressenti des conseillers départementaux?
Oui. Et d'ailleurs, ça se passe... pour moi, c'est un peu frais, mais ça se passe très bien parce que je pense qu'on a vraiment pris le temps de discuter de tout et d'essayer de construire un projet commun. Donc là, c'est vrai que les écologistes au sein du département font partie de la majorité, mais ont un groupe autonome, ce qui leur permet de travailler certains dossiers, d'apporter toujours plus d'idées et en même temps de pouvoir faire grandir justement le projet pour le département de l'Aude.
Et alors, ce que vous appelez donc l'éco-conditionnalité, ça consiste à regarder toute subvention apportée par le département et voir si elle est compatible avec l'écologie. Grosso modo,
oui,
c'est ça.
Oui, grosso modo, c'est ça. Après, il y a des indicateurs. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Les conseillers, je pense, départementaux pourront vous en parler au fur et à mesure. Mais oui, l'idée générale, c'est celle-ci.
Oui. Et est-ce qu'on peut avoir un exemple précis? Parce que le terme éco-conditionnalité étant fort abstrait, pour l'auditeur moyen, c'est peut-être pas évident de voir de quoi on parle.
Ah, alors un exemple précis comme ça...
Vous parliez des routes, par exemple. Bon, c'est vrai que les routes, alors on le sait, le trafic routier pollue.
Ouais.
Bon, pollue même, je crois, sur une grande proportion de la pollution globale. Or, aujourd'hui, alors ça, c'est le sentiment qu'on peut avoir dans l'Aude et pas seulement dans l'Aude, c'est que bon, beaucoup de gens ont des voitures, et en ont besoin d'ailleurs, c'est difficile de... d'affirmer le contraire, surtout dans la ruralité. Mais on s'aperçoit que beaucoup de gens, par exemple, ont aujourd'hui ce qu'on appelle des SUV, c'est-à-dire des véhicules qui sont beaucoup plus gros, qui consomment beaucoup plus, qui polluent donc beaucoup plus, pour des gens qui finalement vont font de la ville ou font de la route et n'ont pas besoin de véhicules de cet acabit-là. Or, on n'a pas l'impression que malgré l'apport écologique et le succès relatif de l'écologie aux élections, que les mentalités changent à ce niveau-là.
Ah, s'il y avait un lien de cause à effet aussi direct, ça serait parfait. Non, c'est des choses qui se construisent. Et puis encore une fois, sur le SUV, là, on est sur quelque chose, on en avait parlé la dernière fois, où on est sur des constructeurs qui vont essayer de vendre toujours
alors,
plus de
rêves.
Alors
sur des modes, il y a aussi des effets
de mode. Des modes, mais beaucoup aussi de publicité, qui essayent de faire vendre des véhicules, finalement, qui vont à l'encontre de ce qu'on devrait mettre en place en tant que société et collectivité. Donc la première chose à dire, c'est que si jamais on veut pouvoir faire évoluer les choses, c'est pas d'interdire la voiture qui fonctionnera, c'est d'essayer déjà de proposer des moyens de transport qui soient différents, hyper efficaces et qui puissent permettre aux gens de pouvoir se déplacer dans la ville et dans l'agglo et dans le département à moindre coût et de façon très facile. Ça, c'est des choses qui n'existent pas, qui sont des solutions qui doivent être complètement pensées. Donc, par exemple, il y a des essais d'autopartage dans certaines villes où finalement les voitures dans certains villages très reculés où les voitures qui appartiennent à la mairie, qui sont des voitures potentiellement hybrides ou électriques, peuvent être mises à la disposition des villageois.
Je crois qu'à Moutoumet, il y a quelque chose comme ça.
C'est une idée intéressante, il faut l'évaluer, mais ça permet effectivement de répondre à des problématiques qui est comment est-ce qu'on finalement on crée un cordon de connexion entre un village où il y a très peu de personnes, où finalement il y a peu de trafic, et puis Narbonne ou d'autres. Donc l'idée, c'est vraiment de se poser la question de comment est-ce que ça va améliorer finalement ces déplacements-là, et comment est-ce que d'un territoire à l'autre, on peut essayer de construire des solutions qui soient adaptées. Voilà. Donc c'est cette idée de l'éco-conditionnalité, c'est d'essayer de créer un critère de sélection qui va permettre en fait de sélectionner des projets ou de favoriser des projets qui iront dans la bonne direction.
Parce que si l'on compare l'autopartage à Moutoumet et puis le nombre, prenons un exemple concret, le nombre de SUV qu'il y a en Narbonne ou dans l'Aude, il n'y a pas photo. Je veux dire, c'est pas Moutoumet qui va contrebalancer la pollution excessive qu'il y a sur les villes.
Ah, mais là, on est complètement d'accord. C'est pour ça qu'il faut pouvoir réglementer ça au niveau peut-être des villes. Et puis, il faut encore une fois créer des solutions pour que les gens, ils aient pas l'impression d'être punis parce qu'ils ont l'habitude, c'est vrai, d'avoir leur SUV. Eh ben, il va falloir qu'ils apprennent que finalement c'est problématique. Le SUV aujourd'hui, il rentre même plus dans les garages des villas parce que tellement ils sont gros. Enfin, je veux dire, il y a un moment, faut aussi réfléchir à l'objectif. Si vraiment on a un déplacement en extérieur dans sur
les petites
routes,
un SUV, ça peut être très utile à quelqu'un qui habite à la campagne ou en forêt ou des choses comme ça.
Oui, mais la plupart c'est des véhicules qui sont utilisés juste par les citadins. Donc là, ça pose quand même des questions. De responsabilité individuelle.
Oui, parce que, bon, pour prendre une image un peu caricaturale, à Paris, ça sert à remonter les Champs-Élysées et à Narbonne, à descendre la promenade des Barques pour beaucoup de gens. Mais pas d'utilité réelle dans la campagne ou dans la montagne telle que le véhicule a été conçu. Rappelons que SUV, ça veut dire, c'est de l'anglais, Sports and Utility Vehicle, c'est-à-dire c'est un véhicule sportif et utilitaire.
C'est ça.
C'est ce que ça devrait être, en tout cas.
Et oui.
Et c'est un bel exemple.
Mais là, on est vraiment, effectivement, sur une problématique aussi de déni. C'est-à-dire de finalement, je peux me permettre d'avoir une grosse voiture en ville, y compris pour aller chercher mon pain, et peu importe finalement les conséquences. Et là, je pense qu'il va falloir essayer de propager davantage une certaine culture de ce que c'est et ce que sera ce changement climatique, non pas pour faire peur, mais pour pouvoir trouver ensemble, collectivement, des solutions, essayer de se dire, peut-être qu'effectivement, avoir un SUV, c'est peut-être pas la priorité, peut-être que...
En tout cas, pas pour tout le monde.
Mais oui, il faut savoir quand même que la mauvaise qualité de l'air, c'est responsable d'entre 48 000 et 100 000 morts par an. Je veux dire, on est hors France. À un moment, on est sur un vrai problème de santé publique et c'est quelque chose qui n'est pas assez dit. C'est-à-dire que avoir, oui, son SUV, rouler comme ça, ça a des conséquences directes sur la santé des gens. Est-ce que les gens, collectivement, sont suffisamment informés pour comprendre, en fait, l'effet sur leur propre personne de ce qu'ils créent? Je pense que si jamais on avait plus de discussions autour de ça, peut-être qu'on se dirait, bah oui, peut-être qu'un suivi, c'est peut-être pas obligatoire.
Oui. Bon, donc là, il reste du pain sur la planche,
Viviane Thivant. Il en reste.
À ce niveau-là. Viviane Thivant, on marque une deuxième pause.